contre-spirituel aujourd'hui, il sera question de celui qu'on a appelé le bon père Frédéric. Il s'agit en fait du père Frédéric Janson de Guiveld, ou Frédéric Janson simplement, un Français, malgré son nom flamand, un franciscain qui a été béatifié, c'est le bienheureux père Frédéric Janson, le bienheureux Frédéric. C'est donc un apôtre du Christ qui a travaillé sur, on peut dire, trois continents en un sens. Il est né en France en 1838 et en 1876, pendant 12 ans, il a été en Terre Sainte, en Palestine. Et puis, il est venu au Québec en 1888. Il est mort ici à Montréal, au couvent des franciscains de ce qu'on appelait à l'époque la rue Dorchester, devenu le boulevard Dorchester et le boulevard René Lévesque, où il y a un grand couvent franciscain, n'est-ce pas, près de Atwater, le couvent Saint-Joseph. Il est mort là. Il y a d'ailleurs une statue de lui qui est là, mais il est enseveli à Trois-Rivières, non loin, au fond du Cap de la Madeleine, où il s'est dévoué longtemps. Les éditions Médiapol ont publié en particulier deux volumes sur lui, l'un de Mgr Jean-François Motte, qui est très bien fait, et puis un autre aussi énorme, qui vaut la peine d'être lu, de Romain Légaré et Constantin Baillargeon, le bon père Frédéric, toujours aux éditions Pauline. Et les deux volumes sont parus en 1988. Je vous les signale tout de suite au début, où j'ai oublié de les mentionner à la fin. Je les me rementionnerai à la fin, j'espère d'y penser. Donc, le père Frédéric Janson, j'appelle son nom. J-A-N-S-S-2-O-N-E. Janson, ça se prononce comme ça. Il est né le 19 novembre, c'est l'anniversaire aujourd'hui. En 1838, il y a donc 160 ans. À Guiveld, c'est pour ça qu'on l'appelle parfois Frédéric de Guiveld de la façon franciscaine et particulièrement des Capucins, mais lui était franciscain. Il est donc né près de Dunkerque dans le diocèse de Cambrai. C'était, disons, à 2003 kilomètres là de la mer du Nord, sur la frontière de la Belgique. C'est pour ça, c'est dans la Flandre française. Et selon la coutume des franciscains, comme je vous ai dit, au siècle dernier, bien, il va signer souvent ses ouvrages, car il a publié plusieurs ouvrages, d'après son lieu d'origine, le père Frédéric de Guiveld. Ses parents étaient cultivateurs. Son père s'appelait Pierre-Antoine Janson, sa mère Isabelle Bollangier, et ils se sont mariés deux fois tous les deux. Alors, il se trouvait être le 8e enfant de la famille Janson, de son père, mais le 13e et dernier, le plus jeune, de la mère. C'est assez extraordinaire. Ils ont eu énormément d'enfants. Et l'année 1848, il avait 9 ans, c'était pour le jeune Frédéric Janson l'une des plus difficiles. Hein? Il y a eu la mort de son père, qui a été causée par un cancer d'estomac. Et ça coïncidait presque avec la révolution de février 1848 qui a renversé le roi Louis-Philippe, le roi français, par le fort conjugus, on peut dire, des bourgeois républicains, là, puis des ouvriers socialistes. Et il y a une disette qui a suivi la révolution. C'était une époque difficile pour un enfant de son âge. Alors, orphelin de père à l'âge de 9 ans, il voit sa famille tomber dans la détresse financière. Hein. Sa mère, qui désirait tant avoir un prêtre dans sa famille, souffre beaucoup, elle, d'autre part, parce qu'elle voit avec grand peine son Pierre, le frère aîné de Frédéric, qui doit quitter le grand séminaire de Cambrai à cause d'une dépression nerveuse. Frédéric, lui, quitte aussi ses études d'entreprise en vue de la prêtrise pour subvenir aux besoins de la famille. Et il s'engage comme commis voyageur pendant 8 ans. Finalement, Madame Janson n'en peut plus et la mort survient le 5 mai 1861. Frédéric a 12 ans. 12 ans, il perd sa mère. Alors, à la mort de cette mère qui était vraiment une mère modèle, Seule sa fille Annette s'est consacrée à Dieu depuis 1854 chez les Augustines d'Arras sous le nom de Sœur Marie des Anges. Je signale, parce qu'il y a peut-être des sœurs qui portaient ce nom autrefois, Sœur Marie des Anges, ça existait. Alors, des trois garçons, la Pierre est à l'université finalement, il a quitté le grand séminaire. Henri, c'est un autre, ça, fait son service militaire. Frédéric dirige une industrie florissante, lui. Or, Pierre devient missionnaire. Ouais, il va quitter l'université finalement, puis il va devenir missionnaire. Henri, lui, qui commence ses études à 28 ans, pour se faire prêtre, il est séminariste, puis il vient de terminer ses études pour être ordonné quand il se noie, accidentellement, près de Nieppe. Et quant au jeune Frédéric, lui, on sait bien, évidemment, qu'il va devenir prêtre franciscain. Alors, après la mort de sa mère, Frédéric Janson fait une retraite à la trappe du Mont des Cas, qui existe toujours, c'est une trappe très fameuse. Et c'est là qu'est Don Louf, le fameux Don Louf, L-O-U-B, L-O-U-F, Père Abbé, qui a écrit sur la prière un ouvrage, un best-seller. Hein. Seigneur, apprends-nous à prier. Alors on lui signifie qu'il n'a pas la vocation de trappiste. Alors il parachève ses études classiques, puis en juin 1864, il entre au noviciat des franciscains d'Amiens. Et ce monastère était caractérisé à l'époque par une intense vie régulière et austère. Après ses études de philosophie et de théologie faites à Limoges et à Bourges, toujours en France, Frédéric Janson est ordonné prêtre à Bourges, une belle cathédrale, le 17 août 1870. Et il devient, presque aussitôt, aumônier militaire dans la guerre franco-prussienne, une autre guerre. Des révolutions, des guerres. Il a 30 ans. Et par la suite, il devient supérieur, déjà supérieur du couvent de Bordeaux. Puis, il devient, moi qui suis bachelier en bibliothéconomie, ça me fait plaisir, j'étais bibliothécaire au grand séminaire 5 ans. Alors, il est bibliothécaire, lui, du couvent de Paris, ça me le rapproche, ça me le rend plus sympathique, on dirait. Et puis, il est auxiliaire, finalement, du commissariat de Terre Sainte, pendant longtemps. Et aussi collaborateur du père Marcellin de Civeza, un franciscain dans la compilation énorme de l'histoire des missions franciscaines. Alors c'est à Paris qu'il obtient son obédience, ou si vous voulez, la charge, là, de se rendre en Terre Sainte. Et le 9 mai 1876, bien, il quitte Paris pour Jérusalem. Puis dans une série d'articles publiés par la revue franciscaine de Bordeaux, il a raconté son itinéraire de Paris à Jérusalem. Je ne vous raconte pas tous ces détails, c'est intéressant. Mais un détail qui me plaît beaucoup, c'est qu'arrivé en Italie, là, à Florence, alors de Florence, le père Frédéric se rend au sanctuaire franciscain de l'Alverne, là, du mont l'Alverne, où saint François d'Assise a reçu les stigmates, hein, et il se rend évidemment à Assise. À la vue du mont Alverne, son cœur de fils de saint François bondit. Lui, Frédéric Janson, si réticent quand il s'agit des sentiments intimes de son âme, il ne sait plus contenir sa joie et sa reconnaissance. Il écrit, « Il y a 13 ans, au noviciat, je me disais, ah, si le bon Dieu me donnait de voir un jour cette sainte montagne. Et je la gravis, cette montagne, maintenant, à cette heure même. Oui, je perçois déjà, là-haut, ces rochers, cette cime couronnée de grands arbres, comme d'une immense chevelure, et je cours en avant de mon compagnon comme un insensé. Ah, je suis fou de joie. Vous me pardonnerez, mon très révérend père. Je ne sais pas dire toutes nos autres émotions en arrivant au sommet du mont. On sent ces choses-là. On ne les dit pas. Elles sont ineffables. Alors le père Frédéric va servir la Terre Sainte pendant 12 ans. Dont 10 à titre de vicaire custodial, c'est un titre important ça. Custodial, ça vient du mot custode ou gardien, si vous voulez. Alors il est vicaire, il est assistant du custode. Donc à titre de vicaire custodial, c'est-à-dire, donc, je le répète, assistant du custode qui est le supérieur de tous les franciscains des lieux saints. Et là, la garde officielle a été donné aux franciscains, a été confié là par le Saint-Siège depuis 7 siècles, 700 ans. Il exprime les impressions de son arrivée à Jérusalem en 1876. Voici ce que le bon père Frédéric écrit en 1887, 11 ans plus tard. Il dit « Pour moi, je ne l'oublierai jamais quand j'arrivai pour la première fois aux portes de Jérusalem, en compagnie d'un tout jeune religieux qui sortait du noviciat de Nazareth, pieux comme un ange, et qui, depuis Jaffa, ne m'avait entretenu en chemin que de choses saintes. Je n'oublierai jamais, dis-je, l'impression que nous avons éprouvée, tous, en mettant pied à terre devant les portes de la ville. Pour nous, il semble que nous étions tous saisis d'une émotion insolite. Nous restions comme interdits sans proférer une seule parole. Et finalement, je rompis le premier le silence pour demander le pourquoi de ce saisissement. Mon jeune compagnon me répondit avec une naïveté d'enfant que c'était là généralement l'impression qu'éprouvaient tous les pèlerins en arrivant à la ville sainte. La 11e année de mon arrivée s'écoule pour moi, c'est-à-dire j'éprouve encore cette impression de mélancolie et de je ne sais quelle mystérieuse tristesse, mais tristesse salutaire qui porte au recueillement et à la prière. Alors ces sentiments de foi, il les a explicités, le père Frédéric, en les mettant dans la bouche d'un pèlerin canadien abordant la Terre Sainte. Il écrit « La terre que je foule de mes pieds émus ». C'est la Terre Sainte, cette terre, dit Saint Bernard, où le véritable Orient est venu d'en haut. Jésus. Par un effet de la grande miséricorde de notre Dieu, pour visiter le premier, où il s'est incarné, où il a habité parmi nous, où il a souffert et où il est mort pour notre salut, où il est ressuscité glorieux et d'où il est remonté vers son Père dans le beau paradis pour nous préparer à tous une belle place. Avancez ainsi. Oui, avancez ainsi avec respect et les pieds déchaussés, et en arrivant devant la ville sainte, saluez-la avec l'âme si aimante du même Saint Bernard et dites dans toutes les fusions de vos cœurs, reconnaissant, salut, ô ville sainte, choisie du Très-Haut pour lui servir de tabernacle, salut, cité du grand roi, théâtre de ses plus grandes merveilles, salut, reine des nations, possession des patriarches, mère des prophètes et berceau des apôtres, origine de notre foi et gloire du peuple chrétien. De grandes choses ont été dites de toi, cité de Dieu. Alors, le bon père Frédéric en Palestine, plus qu'ailleurs, il sait bien que les pèlerins ont deux façons de voir. Il y en a qui vont d'une façon bien terre à terre, comme des touristes. D'autres y vont avec toute leur intelligence et leur foi, comme les saints, qui, au cours des siècles, ont tenu à faire ces pèlerinages jusqu'en Terre Sainte, jusqu'au sépulcre du Christ où le Christ est ressuscité. Et c'était comme ça, c'est pour ça qu'il y a eu ces croisades, pour reconquérir ces lieux saints qui nous avaient été enlevés par les musulmans. Et donc, c'est avec cette seconde manière de procéder, comme les saints, que le bon père Frédéric considère Jérusalem. Il écrit, Jérusalem, Jérusalem, nom plein de mystères. Jérusalem, ville unique entre toutes les villes du monde. Sans pareil pour la grandeur de son nom et les merveilles qui se sont accomplies dans son enceinte. Ville singulière par ses étonnantes vicissitudes, à travers le cours des siècles, assiégée, prise d'assaut, jusqu'à 19 fois. Pillé, saccagé 17 fois. Jérusalem est encore debout et conserve avec son aspect singulier sa mystérieuse grandeur. Jérusalem, continue le père Frédéric, est avant tout et par excellence la ville de la prière. Toutes les nations, tous les rites viennent à Jérusalem pour y faire leur prière. Les différentes sectes dissidentes prient à Jérusalem et font de longues prières. Les Coptes prient. Les Coptes, ce sont les chrétiens d'Égypte, comme vous savez. Ça vient de Égyptos, qui veut dire égyptien. Ce sont les descendants des anciens Égyptiens, les Coptes d'Égypte, qui sont bien persécutés, souvent, malheureusement, encore aujourd'hui. Les Coptes prient, écrit le père Frédéric. Le noir abyssin prient. Les gens d'Éthiopie. Le Syrien prient. Les disciples de Phocius prient. Les Russes accourent chaque année par milliers et passent au très saint sépulcre et dans les autres grands sanctuaires leur nuit en prière. Les musulmans prient et la grande mosquée d'Omar est pour eux un lieu de vrai pèlerinage, un centre général de prière. Enfin, nous avons la consolation de voir que les catholiques arrivent plus nombreux, commencent à former de grands pèlerinages et viennent des contrées les plus lointaines à Jérusalem, eux aussi, pour y faire leur prière. C'est ce qu'écrit au sujet de Jérusalem le bon père Frédéric. Le 3 avril 1878, le père Frédéric est élu vicaire custodial, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il a 39 ans à ce moment-là. Et cette fonction fait de lui un personnage, c'est le premier assistant du père custode, donc le second dignitaire de la custodie de Terre Sainte. La custodie franciscaine jouit de beaucoup de privilèges honorifiques qui sont là depuis 7 siècles à ce moment-là. Elle est alors plus importante que de nos jours. Cette fonction, le père Frédéric l'a remplie durant 10 ans, c'est-à-dire jusqu'à son départ de la Terre Sainte en 1888. Il est chargé de la construction de l'église paroissiale de Bethléem, Sainte-Catherine, où je suis allé à la messe déjà il y a des années, il y a presque 20 ans. Et c'était rempli de gens qui étaient coiffés comme Arafat, avec ce voile sur la tête, ces hommes. Les femmes avec de grandes robes noires, avec de la broderie en bas et un voile sur la tête. Elles avaient l'air de palestiniennes musulmanes, mais pas du tout. Elles étaient catholiques comme nous, catholiques latins. Oui, la messe était en arabe, mais selon les mêmes rites que les nôtres dans nos églises ici au Québec. Le père Frédéric rédige les importants règlements de Bethléem et du Saint-Sépulcre. Il est l'apôtre et le guide spirituel des pèlerinages de langue française en Terre Sainte. À titre de vicaire custodial, représentant de la France au sein du Conseil de la Custodie, c'est le père Frédéric, français, n'est-ce pas, qui reçoit officiellement les pèlerinages de langue française. Et puis, voici en guise d'exemple une allocution que le père Frédéric adresse sur le calvaire aux personnes du 6e pèlerinage de pénitence en 1887. Le manuscrit qui nous est parvenu ne donne que l'enchaînement des idées, là, qu'une sorte de schéma, mais ça manifeste bien l'expression des aspirations intimes de ce saint, ou de ce bienheureux. Ces aspirations intimes et constantes, là, à la sainteté. Des aspirations d'un amour ardent envers Dieu puis le prochain. Voici ce qu'il dit. Vénérable prêtre de Jésus-Christ, pieux modèle, ou pieux pèlerin plutôt, pardon, pieux pèlerin, mes frères, et vous toutes, pèlerines, mes bien-aimées sœurs, à votre si heureuse arrivée au milieu de nous dans la ville sainte, j'ai pensé ne pouvoir vous adresser de meilleurs souhaits que celui de l'apôtre saint Paul, celui qu'il avait coutume d'adresser aux premiers chrétiens. Que la grâce et la paix vous soient données par la bonté de Dieu notre Père et par les mérites de Jésus-Christ notre divin Maître. Oui, bien-aimés frères, la grâce de Dieu, la douce paix du bon Dieu, si indispensablement nécessaire pour bien accomplir en nous sa volonté sainte et toujours adorable. Voilà ce que je vous souhaite. Mais pour arriver à cette sainteté, qui nous obtiendra purement, sûrement, le beau paradis? Que faut-il faire pour être saint? Une seule chose, mes frères, écoutez donc, une troisième fois encore, la voix du grand apôtre qui vous crie à tous dans les irrésistibles transports de son âme ardente. Mes frères, il faut aimer le bon Dieu. Il faut aimer notre Seigneur Jésus-Christ. Et il faut l'aimer jusqu'à la folie. Et une fois que nous aimerons ainsi notre Seigneur, qui donc pourra nous séparer de son amour? Sera-ce la tribulation, les angoisses, la persécution, le glaive? Non. Non, mes frères, pèlerins de Terre Sainte. Car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni aucune autre créature ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Et à quel signe reconnaîtra-t-on que vous aimez notre Seigneur? Eh bien, mes frères, vous allez visiter ce soir le Saint-Cénacle, hein, où a lieu la première messe. C'est là, dans son admirable discours à la dernière scène, que notre Seigneur vous le dit à tous, en la personne de ses apôtres, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Quels commandements? Et combien? Un seul. Ceci est mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Il insiste, le divin maître, vous serez mes amis, et vous êtes déjà mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Finalement, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. N'est-ce pas là, cher pèlerin, le sublime du cœur aimant? Et cet amour de notre Seigneur, vous le trouverez ici, sur cette sainte montagne du Calvaire. Vous le trouverez partout, au Saint-Cénacle, à Gethsémanie. Vous vous aimerez donc les uns les autres. Je vous signale que la construction de l'église paroissiale de Bethléem, qu'il a dirigée, ce bon père Frédéric, et dédiée à Sainte-Catherine d'Alexandrie, elle a été soumise à bien des entraves, à bien des ennuis, surtout de la part, malheureusement, des Grecs orthodoxes. Ça demandait une surveillance constante. C'était une réussite diplomatique grâce au savoir-faire du bon père Frédéric, vicaire custodial. Et pour pouvoir terminer cette église, commencée en février 1880, le père Frédéric devra en 1881 aller quêter en France, puis au Canada, à cause de la détresse financière de la custodie. Alors nous avons participé à la construction de cette église de Bethléem, l'église paroissiale. À son premier voyage au Canada, en 1881-82, le bon père Frédéric a une double mission à remplir. Il faut qu'il négocie avec les évêques du Canada, quoi, la création d'un commissariat de Terre Sainte, l'établissement dans leur diocèse de la quête prescrite par les papes en faveur des lieux saints, puis il faut qu'il visite aussi les fraternités du tiers-ordre de Saint-François, déjà établies sous l'obédience des franciscains, puis en ériger de nouvelles, s'il y a lieu. Et puis, c'est à l'occasion de l'établissement de la quête annuelle du Vendredi Saint qu'il écrit « Notice historique sur l'œuvre de Terre Sainte ». C'est une des meilleures brochures du père Frédéric, certainement celle où il a mis en si peu de pages le plus de détails autobiographiques. Il y défend la vie religieuse qu'on menait à cette époque au couvent franciscain de Saint-Sauveur, puis il y défend ses confrères, notamment contre le reproche de la paresse, en reconstituant le vrai climat de générosité religieuse et d'ardeur au travail. Il écrit en particulier, un soir d'hiver, au coin du feu, durant notre maladie de janvier 1882, dans un presbytère canadien, celui du Cap de la Madeleine sans doute, devant une petite réunion de famille, nous avons donné quelques détails intimes sur le genre de vie que nos religieux mènent au grand couvent du Saint-Sauveur de Jérusalem. Il est donc à Jérusalem, il écrit au sujet de la vie des franciscains là-bas, au couvent du Saint-Sauveur. Il dit « Nous n'avons pas de lever à minuit à Saint-Sauveur, comme au Saint-Sépulcre. » Il a été constaté qu'à cause du climat si énervant de ces pays, la santé des jeunes religieux étudiants en théologie n'y résisterait pas. Mais notre bon et vieux frère sacristain ouvre l'église vers 1 heure du matin. Et celui de nous qui veille au pied du sanctuaire, peut voir arriver l'un après l'autre ses pauvres frères, dont plusieurs couverts d'infirmité ont blanchi au service de la mission, en Terre Sainte, pour faire leur prière, le chemin de la croix, pour se confesser. Ils se trouvent ainsi presque tous réunis pour la messe de 3h30 dans la nuit, à laquelle ils font presque tous également la Sainte Communion. La messe de 4 heures leur sert d'action de grâce. À 4h30, ils assistent à une troisième messe durant laquelle toute la communauté réunie fait la Sainte Communion. Après cela, il leur est permis de prendre le déjeuner qui consiste en une simple tasse de café noir avec une mouillette de pain sec pour le petit nombre qui en désire. Puis au lever du soleil, chacun se rend à son atelier respectif. Et là, travaille avec ses ouvriers jusqu'à l'heure du dîner sans interruption. Après le dîner, l'action de grâce devant Saint-Sacrement et un très court repos. Pour ceux qui sont libres, à 1h de l'après-midi, les ateliers s'ouvrent de nouveau et l'on travaille sans interruption jusqu'au coucher du soleil. À 8h, 20h, les religieux font la collation, qui surtout, aux nombreux jours de jeûne, est bien légère. Puis ils retournent un moment à l'église et peuvent ensuite prier dans leur petite cellule ou prendre un repos qu'ils semblent avoir bien un peu mérité. Et le père Frédéric continue, « Entre-temps, les religieux de cœur se livrent eux aussi à d'autres exercices et accomplissent des cérémonies décrites ailleurs. » Telle est la vie que mènent nos 40 à 50 frères converts au couvent du Saint-Sauveur. Et voilà les religieux que l'on traite, hélas, trop souvent, de paresseux et de bouches inutiles, leur accordant, tout au plus, par un excès de condescendance, le mérite d'un peu de travail accompli dans la matinée, consacrant, ainsi que nous le lisions nous-mêmes autrefois dans des ouvrages écrits par des personnes non hostiles, consacrant l'après-midi au repos. Il n'est pas gêné, hein? Alors, le 18 avril 1888, le bon père Frédéric quitte définitivement Jérusalem pour aller accomplir sa nouvelle charge de commissaire de Terre Sainte au Canada, tâche qu'il va remplir jusqu'à sa mort. Père Frédéric est venu quêter déjà au Canada pour la Terre Sainte en août 1881 jusqu'à mai 82. Pendant 4 mois et demi, dans les diocèses de Québec, de Trois-Rivières et de Montréal, ce fut une prédication presque continue, entremêlée d'articles, de journaux, de publications de brochures, jusqu'à la fin de janvier 1882, où là, il est terrassé par une grave maladie qui le conduit à une longue et dure convalescence. Hein? Il faut signaler aussi la retraite la plus sensationnelle qu'il a prêchée. Écoutez bien ça, c'est peu après son arrivée au Canada, le dimanche 4 septembre, oui, la retraite a duré du 4 septembre au samedi 10 septembre 1881, et ça a fait courir toute la ville de Québec. Les journaux de Québec suivaient la marche de la retraite et ont rapporté 2 miracles attribués à la vénération des reliques de la Terre Sainte. Le premier, c'est un jeune homme atteint de cécité, il est aveugle, qui recouvre la vue. Et une dame, Gourdeau, paralysée des jambes, se lève après avoir vénéré les reliques, revient à la sacristie où elle a pris refuge et va, dans son émotion, trouver le missionnaire, bon père Frédéric, au sanctuaire, en présence de toute l'assistance émerveillée. Et là, elle retourne chez elle sans l'aide de qui que ce soit. Étonnant, vraiment étonnant. Le père Frédéric a fait 2 séjours au Cap de la Madeleine, le 1er de septembre 1881 au 1er mai 82, et le deuxième durant 14 ans, de 1888 à 1902. Alors arrivé au Canada le 14 juin 1888, pour la deuxième fois, là, ça devait être définitivement, il participe le 22 juin suivant à la consécration solennelle du petit sanctuaire à Notre-Dame du Rosaire. À la grand-messe, il donne le sermon. Il annonce, à la manière d'un prophète, les destinées du sanctuaire du Cap de la Madeleine. Il se sera, à l'avenir, le sanctuaire de Marie. Vous y viendrez prier, paroissiens du Cap. On y viendra de toutes les parties du diocèse. On y viendra de tous les points du pays. Il deviendra trop étroit pour contenir les foules qui y viendront implorer la Vierge du Rosaire. Et le soir même de cette journée, écoutez bien, il est témoin du prodige des yeux ouverts de la statue de la Vierge du Cap. Étrange. Enfin, je vous lis ce qui est écrit dans un texte paru dans la presse de Montréal le 22 mai 1897. C'était réuni sans brochure de 17 pages sous le nom de M. Duguay, qui était curé du Cap de la Madeleine. Alors, le père Frédéric, qui est l'auteur véritable de la brochure, a raconté ce prodige. Je lis. La déclaration suivante est l'attestation solennelle devant notaire du prodige annoncé dans le titre ci-dessous. Canada, province de Québec, district des Trois-Rivières. Je, Pierre Lacroix, ingénieur, résident à la cité des Trois-Rivières, déclare solennellement que je suis entré dans le sanctuaire vers 7h du soir, accompagné de Monsieur le grand vicaire Luc Desilets et du très révérend père Frédéric. Je marchais entre deux et des deux. Nous avons été nous mettre au balustre devant le maître-autel, sur lequel on avait placé la statue. Monsieur le grand vicaire et le très révérend père Frédéric, à genoux, et moi assis entre les deux sur un siège placé pour cela, car je ne pouvais me mettre à genoux à cause de mes infirmités. Là, après m'être mis en prière, je jetai la vue sur la statue de la Sainte Vierge qui se trouvait en face de moi, et aussitôt, j'aperçus très distinctement les yeux de la statue grandement ouverts, mais d'une manière naturelle, et comme si elle eût regardé au-dessus de nous et me paraissait regarder les trois rivières. Alors, la déclaration faite sous serment en janvier 1895 par l'infirme Pierre Lacroix sur son lit de mort, à une heure où l'on ne ment pas, bien le bon père Frédéric la ratifie publiquement 2 ans après dans sa brochure. Il écrit « Le regard de la Vierge était celui d'une personne vivante ». Il avait une expression de sévérité mêlée de tristesse. Ce prodige a duré approximativement de 5 à 10 minutes. Le grand vicaire des Ilets n'a jamais douté un seul instant de la réalité du prodige, et il en parlait souvent avant sa mort. Quant au révérend père Frédéric, il continue d'affirmer que lui non plus n'a jamais douté, et que l'impression produite par ce long regard de la Vierge est restée si profonde en lui qu'il la voit toujours nettement devant ses yeux, et que s'il était dessinateur, il la reproduirait telle qu'elle lui apparut le 22 juin 1888. La constatation simultanée des trois témoins, au moment même d'un prodige qui a duré si longtemps, semble devoir être d'un grand poids en faveur de l'authenticité de ce prodige. J'ai lu ça d'un article paru dans le sanctuaire du Très-Saint-Rosaire du Cap de la Madeleine, notice sur ses origines et son développement, pages 10 à 12. Alors, prophète de Notre-Dame du Cap, premier historien de son sanctuaire, le père Frédéric Janson, est aussi pendant 14 ans, par des circonstances providentielles, le premier propagandiste, puis l'âme des pèlerinages. Il est aussi le rédacteur des annales du Très-Saint-Rosaire. Il est, écoutez bien, l'instaurateur du premier chemin de croix en plein air qui a attiré des foules. De sorte qu'à ses funérailles, il va recevoir ce témoignage de Monseigneur François-Xavier Cloutier, évêque de Trois-Rivières. C'est le révérend père Frédéric qui, en grande partie, a lancé l'œuvre de Notre-Dame du Rosaire au Cap de la Madeleine. Le père Frédéric, d'autre part, prêche la communion fréquente. Il est très attaché à l'Eucharistie. Ainsi, durant son stage d'aumônier au collège Saint-Joseph de Coronfiche au Caire. Il était là de 1877 à 1878, donc 10 ans avant de venir ici. Eh bien, le bon père Frédéric s'est révélé, 30 ans avant Saint-Pie-X, à l'égal de Saint-Jean Bosco, l'apôtre de la confession et de la communion fréquente, même chez les enfants. Même chez les enfants. Ces pratiques étaient alors très négligées, hein? Par l'influence du jansénisme, on avait peur. Il revient souvent sur ce sujet-là, le père Frédéric, dans ses sermons, dans les articles qu'il écrit pour la revue franciscaine de Bordeaux de 1878 à 1880. Il ne cesse de rappeler sur la communion la doctrine du Concile de Trente. Le père Frédéric a aussi une dévotion particulière envers la passion de notre Seigneur. Ça s'est manifesté par la prédication fréquente, par l'érection de 3 chemins de croix en plein air au Québec, c'est-à-dire à Saint-Élie de Caxton, dans le diocèse de Trois-Rivières, au Cap de la Madeleine. Puis, saviez-vous, à la chapelle de la Réparation, Pointe-aux-Trembles, près de Montréal, à Montréal, quoi. Alors, on lui attribue le rétablissement du chemin de croix dans les rues de Jérusalem. Oui, on lui attribue, je répète, le rétablissement du chemin de croix dans les rues de Jérusalem au siècle dernier. Et surtout le rétablissement de la prédication solennelle de la voix douloureuse et la Via Dolorosa le vendredi saint. On voit ça à la télévision chaque année, j'en passe des petits bouts. Et il en a été le prédicateur éloquent pendant 10 ans à Jérusalem. Un témoin de cette époque avoue, le père Frédéric fait une allocution à chaque station. Et il est impossible de parler avec plus d'émotion et d'attendrissement du calvaire et de la rédemption. Ce n'est pas une suite d'arguments plus ou moins habiles, écrit-on. C'est l'élan d'une âme passionnée, du bon père Frédéric, pour Dieu. et qui veut communiquer sa flamme à ceux qui l'écoutent. Aussi l'assistance est-elle toujours émue, et bien des yeux se mouillent. Ah, si on avait ça ici. Souvent, très souvent. Ah, le principe fondamental de la vie apostolique du Père Frédéric, comme de toute vie vraiment chrétienne, c'est le zèle pour la gloire de Dieu et le bien des âmes. Sa charité se manifeste d'une façon bien spéciale à un âge avancé. Reprenant pour Dieu et le prochain son ancien métier de commis voyageur, il vend ses volumes pendant plusieurs années de maison en maison dans 4 diocèses. Il les vend pour les franciscaines missionnaires de Marie dans Québec pour les aider, pour les Clarisses aussi dans le diocèse de Valleyfield, pour les franciscains dans Trois-Rivières, ça fait ça de 1908 à 1909, puis pour les sœurs adoratrices du précieux sang dans Joliette de 1909 à 1911. C'est un homme généreux qui pense toujours aux autres. Le Père Frédéric est avant tout un apôtre. Il sait opérer l'union harmonieuse de la vie contemplative franciscaine et de la vie active franciscaine. Tout ça à l'école de Saint-François d'Assise. Hein? Par la pratique des grandes vertus chrétiennes et religieuses, le Père Frédéric s'affirme un parfait imitateur de Saint-François. Dans la vie qu'il a consacrée d'ailleurs à Saint-François, il a reproduit le portrait de ce saint merveilleux. Et il trace en filigrane à son insu son propre portrait dans un sens. Ce bienheureux père, parlant saint François, plaisait à tout le monde, disent les écrivains du temps. La joie, la sérénité, la bonté, la modestie paraissaient toujours sur son visage. Il était naturellement doux et poli, compatissant, bienfaisant, généreux, prudent, discret, de bons conseils, fidèle à sa parole et plein d'énergie. Saint François était d'un caractère souple et facile, se pliant à l'humeur des autres, se faisant à tous. Saint avec les saints et si humble avec les pauvres pécheurs qu'il semblait être lui-même un pécheur. Dans la conversation, Saint François s'énonçait avec grâce. Il était fin et délié dans ses raisonnements, actif et accommodant dans les affaires. D'ailleurs très simple, dans ses actions et dans ses paroles. Dans ce livre consacré à Saint-François, Saint-François d'Assise, le titre du bon Père Frédéric, le bienheureux Père Frédéric franciscain, il écrit aussi au sujet de Saint-François. Lorsqu'il prêchait, il dédaignait tous les apprêts du beau langage, les jugeant indigne d'un envoyé de Jésus-Christ. Néanmoins, il parlait avec une élégance entraînante, avec beaucoup d'esprit, de jugement et de vivacité. Il avait une excellente mémoire. Sa voix était vibrante, sonore et agréable. Sa parole facile, naturelle, persuasive. Il prêchait avec toute la véhémence et tout le feu que donne une charité ardente, une foi profonde et toutes les tendresses d'une piété pleine d'amour. Une vertu divine assistait continuellement l'homme de Dieu et pénétrait à la fois les esprits et les cœurs. Dès que Saint François paraissait quelque part, les populations accouraient pour voir et entendre cet homme nouveau que Dieu leur envoyait. Mais il semait les miracles sur ses pas, guérissant les malades, chassant les démons, prédisant même l'avenir. Le Père Frédéric Janson est plusieurs fois proche de la mort. Il n'a jamais peur de la mort, au contraire, il la désire. Comme pour Saint Paul, mourir est pour lui un gain. Je vous ai parlé de Saint Paul hier. Ainsi, en août 1876, après 3 semaines de prédication donnée d'affilée à des communautés religieuses d'Égypte, en pleine période de chaleur, il est atteint d'un violent mal de tête et son esprit manifeste le calme de venceur la mort, ainsi que l'exemple d'obéissance entière à un confesseur occasionnel, comme Saint François, prêt à obéir à un novice d'un jour. Après l'examen attentif du médecin, on se met à parler tout bas autour de lui, puis commence un va-et-vient d'infirmiers et de visiteurs pleins d'inquiétude. Une autre fois, il est prêt même au martyr. Écoutez bien ça, c'est assez étonnant. C'est en juillet 1882, au Caire, après un massacre d'Européens, en majorité chrétiens, évidemment, qu'avait fait à Alexandrie là, des Arabes et des Bédouins musulmans. Ça se fait encore, hein? On n'en parle pas beaucoup. Des chrétiens coptes sont massacrés dans leur village, les églises brûlées par les musulmans. Quelle tristesse. Je sais pas s'il y a des musulmans, vraiment honnêtes, il y en a beaucoup, des gens honnêtes, j'en connais, qui vont se lever pour protester contre ces choses-là. C'est épouvantable. Voici ce que le père Frédéric raconte. Le lendemain du départ des religieux du Caire, il m'arriva un petit incident sans conséquence aucune et que je ne relate ici que pour simple mémoire. C'était le matin du 16 juillet 1882. On frappe à la porte, je m'empresse d'ouvrir. C'était un de nos bons catholiques réfugié chez les frères des écoles chrétiennes qui m'apportait des nouvelles du père Philippe, le curé. Je profite de sa présence pour le prier d'aller m'acheter 2 ou 3 œufs en ville pour mon petit repas du jour. Le couvent étant resté sans provision au départ de nos pères. Or, continue le bon père Frédéric, pendant que nous étions là à échanger 2 ou 3 paroles entre nous, voici 3 Arabes fuyards alexandrins qui passent. En nous apercevant, ils s'arrêtent. Ils nous disent, « Ah, vous êtes encore ici? Eh bien, attendez-nous un peu, à Alexandrie, nous avons déjà fini avec les chrétiens, bientôt ce sera votre tour ici, au Caire. » Et en parlant ainsi, il faisait signe avec la main qu'il nous couperait la tête. C'était la menace de leur part d'un nouveau massacre. Et moi, devant cette menace, je le confesse ingénument, sans me sentir ému en aucune manière, j'ouvre instinctivement les bras et je leur dis, « Faites donc de suite ce que vous voulez remettre à plus tard. Frappez! Me voici! » Entre-temps, ils avaient aperçu nos 2 soldats de garde et se sont enfuis au galop. Or, on sait bien, j'ai essayé la fin du texte du père Frédéric, ça nous savons, comme nous l'avons signalé tout à l'heure, que son premier voyage au Canada, le père Frédéric a offert sa vie pour sa nouvelle patrie d'adoption. Et souvent, au cours de son existence, il laisse échapper des élans mystiques, son désir de finir ses jours au Saint-Sépulcre ou au Mont-Tabor, ou simplement d'aller trouver au plus tôt la Jérusalem céleste, le ciel. « Une chose me presse, dit-il. » J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, ce qui serait de beaucoup bien préférable. C'est dans une lettre qu'il écrit en 1891. La même année, il écrit « Mes désirs de la bienheureuse éternité sont plus intenses que jamais. Mon desiderium habens dissolvi et esse cum Christo, mon désir de me dissoudre et d'être avec le Christ ne me quitte plus jour et nuit. Quand verrai-je Jésus face à face? J'ai toujours le desiderium dissolvi, dit-il. C'est irrésistible pour moi. J'ai un dégoût de toutes les choses extérieures et je suis prêt pour obtenir la réalisation de ce désir. Dieu aidant au plus dur sacrifice. Il écrit aussi pour moi personnellement, je ne désire qu'une chose après laquelle je soupire depuis 40 ans. Être avec Jésus-Christ. Il écrit, enfin, c'est très beau. Je suis toujours désiré. Et d'autres avec moi. De retourner en Terre Sainte pour y finir mes jours. Sur le mont Tabor, c'est là où Jésus s'est transfiguré, vous savez, en présence de ses apôtres. Finir mes jours sur le mont Tabor, où l'on commence les travaux de la nouvelle basilique. Hein? La nouvelle basilique, là, qui est pas tellement belle. Les mosaïques sont... Mais c'est intéressant, quand même. Il ajoute, ce serait là le lieu unique d'un saint ritiro. Un ritiro, c'est un nom italien. C'est un couvent plus solitaire, où les religieux vivent beaucoup plus de la vie contemplative, puis où ils s'appliquent à une perfection plus sévère, hein, les franciscains. Alors il dit, ce serait là le lieu unique d'un saint ritiro, avec des règles spéciales, en dehors de la juridiction de la custodie. Et pourquoi pas? Je suis maintenant seul au monde, plus de proches parents. Mon unique frère survivant, Pierre, s'est éteint doucement dans le Seigneur, le soir du 18 mars, veille de la fête de Saint-Joseph. Après 44 ans d'un très laborieux apostolat, hein, le père Pierre Janson, des missions étrangères de Paris, est mort à Bangalore en 1912 à l'âge de 80 ans. Et son frère, le bon père Frédéric, lui a consacré une courte notice nécrologique dans la Revue franciscaine de Montréal en 1912. La solitude du Tabor, écrit le bon père Frédéric, puis-je la désirer? Non. Je veux faire simplement la volonté du bon Dieu et travailler encore à sa gloire, tant que mes forces me semblent augmenter, me le permettront. J'ai 40 ans de ministère, et si le Retiro se trouve bâti dans 4 ans, j'aurai les années d'apostolat de mon vieux frère. C'est vraiment étonnant, le désir de la mort qu'il a. Il est vraiment fantastique. C'est le très révérend père Jean-Joseph de Guire, qui a titre de provincial, a présidé une sorte de liturgie analogue au Transitus de Saint-François, qui écrit le 4 août dans l'après-midi 1916, le bon père Augustin s'approcha de lui et lui fit répéter le Veni Domine Jesu, viens Seigneur Jésus. Et le père Frédéric, assis dans son lit, semblait un peu attiré vers le crucifix suspendu. Et après avoir prononcé « Veni Domine Jesu », il a rendu son âme avec beaucoup de calme, une expression de paix indéfinissable. Cette mort douce et sereine évoquait dans ma pensée, écrit le père de Guire, le souvenir de la mort de Saint-Joseph. Alors c'est donc sans secousse que le bon père Frédéric est passé de la paix de sa cellule aux joies du paradis, sur le boulevard René Lévesque, la rue Dorchester dans le temps, au couvent Saint-Joseph. C'était le vendredi 4 août 1916, à 5h moins quart de l'après-midi. Il a été évidemment embaumé, exposé avec la traditionnelle austérité franciscaine dans le grand parloir du couvent Saint-Joseph de Montréal. Les gens sont venus en foule, en foule. Il y a eu un service auquel les gens ont assisté avec grand joie. Il était enseveli à Trois-Rivières. C'est écrit « Ici repose le révérend père Frédéric Janson, franciscain, ex-vicaire custodial, fondateur du commissariat, commissaire de Terre Sainte au Canada, né à Guivelde en France le 19 novembre 1837, mort en odeur de sainteté à Montréal, le 4 août 1916. » Mort en odeur de sainteté. Il a été béatifié, comme vous savez, et nous pouvons vraiment le vénérer et prier. Seigneur, toi qui as appelé le bienheureux père Frédéric à nous conduire par Marie sur les pas de ton fils, fais qu'à son exemple et par son intercession, nous devenions de fidèles pèlerins dans la foi, en marche vers la demeure que tu nous as préparée. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen.